Chapitre 28. Dimanche 13 décembre, jour de la Sainte Lucie, le midi. En rentrant de Tumba, Simone écoute Kenneth parler du manque de coordination de la police. Elle ne dit rien, le laisse maugréer et regarde par la vitre de la voiture. Voit les familles aller et venir dans la rue. Des mères qui se rendent quelque part avec leurs bambins emmitouflés qui parlent, une tétine à la bouche. Des enfants en patinette qui se démènent pour avancer dans la neige fondue. Ils ont tous le même sac à dos. Une bande de filles, des lumières de la Sainte Lucie dans les cheveux, piochent des friandises dans un sachet et rient d'aise. Cela fait maintenant plus de 24 heures que Benjamin nous a été enlevé, arraché du lit, traîné hors de sa propre maison, pense-t-elle en observant ses mains posées sur ses genoux. Les marques rouges des menottes sont encore très visibles. Rien n'indique que Josef Eck soit impliqué dans sa disparition. Il n'y avait aucune trace de Benjamin dans la cache, seulement de Josef. De toute évidence, Josef se trouvait dans la pièce dérobée quand son père et elle sont descendus dans la cave. Simone imagine comment il a dû se recroqueviller et les écouter, réaliser qu'ils avaient démasqué sa cachette et s'efforcer de prendre la hache aussi silencieusement que possible. Quand le tumulte a éclaté, que la police est arrivée en trombe et l'a traînée en haut avec Kenneth, Josef en a profité pour pousser l'armoire, amener l'escabeau sous le soupirail et s'enfuir. Il s'est échappé, a dupé la police et court toujours. Une alerte nationale a été lancée, mais Josef Eck ne peut pas avoir enlevé Benjamin. Ce sont simplement deux événements qui se sont produits quasiment en même temps, exactement comme Eric a tenté de le lui dire. « Tu viens ?» demande Kenneth. Elle lève la tête et se dit que l'air s'est refroidi. Kenneth lui répète plusieurs fois de sortir de la voiture et de venir avec lui avant qu'elle comprenne qu'ils sont garés dans l'Untmakergatan. Elle ouvre la porte de l'appartement et voit le manteau de Benjamin dans le vestibule. Son cœur bondit dans sa poitrine et elle a juste le temps de se dire qu'il est à la maison avant de se rappeler qu'il était en pyjama quand on l'a traîné dehors. Son père a le teint terreux. Il dit qu'il va se doucher et disparaît dans la salle de bain. Simone s'appuie contre le mur du couloir, ferme les yeux et pense « Si seulement je pouvais récupérer Benjamin, j'oublierais tout ce qui s'est passé et tout ce qui doit arriver dans les jours à venir. Je n'en parlerai pas, je n'éprouverai aucune colère, je n'y penserai pas, je serai juste reconnaissante. » Elle entend Kenneth faire couler de l'eau dans la salle de bain. En soupirant, elle retire ses chaussures, laisse tomber sa veste à terre et va s'asseoir sur le lit. Soudain, elle ne se souvient plus de ce qu'elle était venue faire dans la chambre, chercher quelque chose ou se coucher un moment pour se reposer. Elle sent la fraîcheur du drap contre la paume de sa main et voit le pantalon de pyjama froissé d'Eric qui dépasse de l'oreiller. Au moment même où la douche s'arrête, elle se souvient de ce qu'elle voulait faire. Elle venait chercher une serviette pour son père. Puis, elle comptait allumer l'ordinateur de Benjamin et essayer de trouver quelque chose qui puisse avoir un lien avec l'enlèvement. Elle se lève, prend une serviette de bain grise dans l'armoire et retourne dans le couloir. La porte de la salle de bain s'ouvre et Kenneth en sort tout habillé. « Ta serviette !» dit-elle. « J'ai pris la petite. » Il a les cheveux mouillés et sent la lavande. Elle comprend qu'il a dû utiliser le savon bon marché dans le flacon à pompe posé sur le lavabo. « Tu t'es lavé les cheveux avec du savon ?» demande-t-elle. « Il sentait bon, » répond-il. « Il y a du shampoing, papa. »«
C'est pareil. »«
D'accord. » Elle sourit et décide de ne pas lui dire à quoi sert la petite serviette.
« Je vais refaire du café, » dit Kenneth en allant à la cuisine.
Simone pose la serviette de bain sur le buffet et va dans la chambre de Benjamin. Elle allume l'ordinateur et s'installe sur la chaise. Rien n'a bougé dans la chambre. Les draps sont toujours emmêlés par terre et le verre d'eau renversé. La musique de bienvenue du système d'exploitation retentit. Simone pose la main sur la souris, attend quelques secondes et appuie sur la photo miniature du visage de Benjamin pour se connecter. L'ordinateur demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Elle tape Benjamin, prend une profonde inspiration, puis écrit Dumbledore. L'écran scie. Tel un œil qui se ferme puis se rouvre. Ça a marché. La photo sur le bureau représente un cerf dans une clairière.
Une lumière féerique drape la végétation. L'animal farouche semble parfaitement calme. Simone sait qu'elle est en train de violer la sphère la plus intime de Benjamin, mais c'est comme si brusquement, elle avait de nouveau une partie de lui près d'elle.
« Tu es un génie !» dit son père derrière elle.
« Non. » Kenneth pose une main sur son épaule et elle ouvre son logiciel de courrier électronique.
« On remonte jusqu'à quand ?» demande-t-elle. « On va tout passer. »
Elle parcourt la boîte de réception, ouvrant message après message. Un camarade de classe a une question sur un projet. Un projet de groupe est discuté. Quelqu'un affirme que Benjamin a gagné 40 millions d'euros dans une loterie espagnole. Kenneth sort et revient avec deux tasses.
« Une bonne tasse de café, il n'y a rien de meilleur, » dit-il en s'asseyant. « Comment diable as-tu réussi à forcer l'ordinateur ?»
Elle hausse les épaules et boit un peu de café.
« Il faut que j'appelle Cali Jepson pour lui dire que nous n'avons plus besoin de ses services, il est trop lent. »
Elle feuillette la liste, ouvre un email d'Aïda. Elle décrit avec humour le scénario d'un mauvais film, dit qu'Arnold Schwarzenegger est un Shrek lobotomisé. La lettre hebdomadaire de l'école. La banque met en garde de ne pas communiquer ses coordonnées bancaires. Facebook, 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 Facebook. Simone va sur la page Facebook de Benjamin. Des centaines de messages concernant le groupe Hypno Monkey. Tous les commentaires tournent autour d'Eric. Eric a hypnotisé Benjamin et fait de lui un nerd. On a des preuves selon lesquelles Eric aurait hypnotisé tout le peuple suédois. Un individu exige des dommages et intérêts parce que Eric a hypnotisé sa bite. Il y a un lien vers une vidéo sur YouTube. Simone clique et tombe sur un petit film intitulé « Asshole ». Eric se fraye un chemin dans la foule, tandis que, en voix off, un chercheur décrit comment fonctionne l'hypnose sérieuse. Eric bouscule par inadvertance une vieille femme en déambulateur qui lui fait un doigt d'honneur derrière son dos. Simone revient à la boîte de Benjamin et trouve un court message d'Aïda qui lui fait froid dans le dos. Quelque chose dans ses mots fait monter en elle une angoisse sourde. Soudain, ses paumes sont moites. Elle se retourne et attire l'attention de Kenneth sur le message. « Lis ça, papa. » Elle tourne l'écran vers lui pour lui permettre de lire ce qu'a écrit Aïda. Nick dit que Waylord est en colère, qu'il a ouvert la bouche contre toi. Je pense que ça peut être vraiment dangereux, Benjamin. Nick est le petit frère d'Aïda, dit Simone.
Et Waylord ? Demande Kenneth en prenant une profonde inspiration. Tu sais de quoi il s'agit ?
Simone secoue la tête. L'angoisse soudaine a maintenant atteint son pic de densité et s'est concentrée en une petite boule obscure qui roule en elle. Que sait-elle réellement de la vie de Benjamin ?
Je crois que c'est le nom d'un Pokémon, dit-elle. Le frère d'Aïda, Nick, parlait de Waylord.
Simone va dans les messages envoyés et trouve la réponse inquiète de Benjamin. Nick doit rester à l'intérieur. Ne le laisse pas descendre jusqu'à la mer. Si Waylord est vraiment en colère, l'un d'entre nous va le payer cher. Nous aurions dû aller à la police tout de suite. Je pense que c'est trop dangereux de le faire maintenant.
Bon sang, jure Kenneth.
Je ne sais pas si c'est vrai ou si ça fait partie d'un jeu.
Ça n'a pas l'air d'un jeu.
Non.
Kenneth expire longuement et se gratte le ventre.
Aïda et Nick, dit-il lentement. Comment sont-ils ?
Simone regarde son père et se demande comment lui répondre. Il ne comprendrait jamais quelqu'un comme Aïda. Une fille piercée, maquillée, tatouée, tout habillée de noir et dont l'environnement familial est pour le moins spécial.
Aïda est la petite amie de Benjamin, dit Simone. Et Nick, c'est son frère. Il y a une photo d'elle et Benjamin quelque part.
Elle prend le portefeuille de Benjamin et trouve la photo. Benjamin a son bras autour des épaules d'Aïda. Elle semble légèrement mal à l'aise tandis que lui est détendu et rit en regardant l'objectif.
Mais comment ils sont ? S'obstine Kenneth en regardant le visage lourdement maquillé d'Aïda sur la photo.
Comment ils sont ? Je ne sais pas trop. Je sais juste que Benjamin est très amoureux d'elle et qu'elle semble prendre soin de son frère. Je pense qu'il souffre d'une sorte de déficience mentale.
Agressif ?
Elle secoue la tête.
Je ne pense pas, dit-elle.
Elle réfléchit puis reprend.
Leur mère semble malade. Quelque chose me fait dire qu'elle a un emphysème pulmonaire, mais je n'en sais rien.
Kenneth croise les bras sur la poitrine, s'incline en arrière et regarde le plafond. Puis il se redresse et dit d'une voix sérieuse
« Alors Waylord est un personnage de dessin animé. »
« Un Pokémon. »
« Et je suis censé savoir ce que c'est ?»«
Quand on a des enfants d'un certain âge, on sait ce que c'est qu'on le veuille ou non, » répond-elle.
Kenneth la fixe d'un regard vide.
« Les Pokémon, » répète Simon, « c'est une sorte de jeu. »«
Un jeu ?»«
Tu ne te souviens pas que Benjamin y jouait quand il était plus petit ? Il collectionnait des cartes et nous serinait avec les différentes forces, la façon dont les personnages se transformaient. »
Kenneth secoue la tête.
« Il a dû s'y intéresser pendant 2 ans, » dit-elle.
« Mais plus maintenant. »
« Il est un peu trop grand pour ça. »
« Je te voyais jouer avec des poupées quand tu revenais du camp d'équitation. »
« Oui, il joue peut-être en cachette. »
« Bon, et en quoi ça consiste, ces Pokémon ?»«
Comment t'expliquer ? Ça a un rapport avec les animaux, mais ce ne sont pas de vrais animaux. Ils sont inventés, ressemblent à des insectes ou à des robots, quelque chose comme ça. » Certains sont mignons et d'autres carrément répugnants. À la base, c'est un jeu japonais arrivé à la fin des années 1990 et c'est devenu toute une industrie. En fait, ce sont des monstres de poche. Celui qui joue les porte dans la poche. On peut les rouler et les mettre dans de petites boules. Tout ça est assez stupide. L'idée, c'est de rivaliser avec d'autres joueurs en arrangeant des batailles entre les différents Pokémon. Très violentes, bien sûr. Quoi qu'il en soit, le but est de vaincre le plus possible car on gagne de l'argent. Le joueur reçoit de l'argent, le personnage Pokémon accumule des points.
« Et celui qui a le plus de points gagne, » dit Kenneth.
« À vrai dire, j'en sais rien. Ça semble ne jamais s'arrêter. »«
Donc c'est un jeu vidéo ?»«
C'est tout à la fois. C'est sans doute pour ça que ça a pris une telle proportion. » Il y a une émission télé, des jeux de cartes, des peluches, des bonbons, des jeux électroniques, la Nintendo...
« Je ne suis pas sûr d'y voir plus clair, » dit-il.
« Non, » dit-elle d'une voix hésitante. Il la regarde.
« À quoi tu penses ?»«
Je viens de comprendre que c'est exactement ça le but, que les adultes se retrouvent exclus, » dit-elle. « Les enfants sont tranquilles. Ils sont tranquilles parce qu'on ne saisit pas l'univers Pokémon. Il y en a trop, c'est trop vaste. »«
Tu penses que Benjamin aurait recommencé à jouer ?»«
Non, pas de la même façon, non. « Ça doit être autre chose, » répond-elle en désignant l'écran.
« Tu crois que Waylord est une vraie personne ?»«
Oui. »«
Qui n'a rien à voir avec les Pokémon ?»«
Je ne sais pas. Le petit frère d'Aida, Nick, il m'a parlé de Waylord comme s'il s'agissait d'un Pokémon. Ce n'est peut-être que sa manière de parler, mais bon, ça prend un autre sens quand Benjamin écrit « Ne laisse pas Nick descendre jusqu'à la mer. »«
Quelle mer ?»
demande Kenneth. « Exactement, il n'y a pas de mer ici. Elle n'existe que dans le jeu. »«
En même temps, on dirait que Benjamin prend la menace au sérieux, » dit Kenneth. « Tu crois que c'est vrai ?»
Elle hoche la tête. « La mer est inventée, mais la menace est réelle. »«
Il faut trouver ce Waylord. »«
Il se peut que ce soit un avatar, » dit-elle d'une voix hésitante. Il la regarde avec un petit sourire.
« Je commence à comprendre pourquoi il est temps que je prenne ma retraite, » dit-il.
« Un avatar est une identité sur un site de chat, » explique Simon. « Je vais faire une recherche sur Waylord. » La recherche donne 85 000 résultats. Kenneth va dans la cuisine. Elle l'entend monter le volume de la radio de police. Le crépitement et le bourdonnement se mélangent avec des voix. Elle parcourt des pages et des pages d'infos sur les Pokémon. Waylord est le plus grand Pokémon identifié à ce jour. Ce Pokémon géant nage en haute mer, tout en ingérant des quantités massives de nourriture avec sa bouche énorme.
« La voilà, la mer !» dit Kenneth à voix basse en lisant par-dessus son épaule.
Elle ne l'avait pas entendu revenir.
Le texte décrit la façon dont Waylord chasse sa proie en faisant un saut monumental. Il atterrit au milieu du banc et poursuit sa route la bouche remplie de poissons. Voir Waylord engloutir sa proie en une seule bouchée est un spectacle terrifiant, dit encore le texte. Elle restreint sa recherche à des pages uniquement en suédois et atterrit sur un forum où elle trouve une conversation.
Salut, comment obtenir un Waylord ? Pour avoir un Waylord, le plus simple, c'est d'attraper un Whalemare quelque part dans la mer.
D'accord, mais où dans la mer?
Presque n'importe où, à condition d'utiliser Super Rod.
Tu trouves quelque chose? Demande Kenneth.
Ça peut prendre du temps.
Parcours tous les emails, regarde dans la corbeille, essaie de retrouver la trace de ce Waylord.
Elle lève la tête et voit que Kenneth a mis sa veste en cuir.
Tu fais quoi?
Je pars.
Tu pars où? Chez toi?
Je dois parler avec Nick et Aïda.
Tu veux que je vienne?
Kenneth secoue la tête.
Il vaut mieux que tu vérifies l'ordinateur.
Elle l'accompagne à la porte. Kenneth s'efforce le sourire. Il semble très fatigué. Elle l'embrasse, referme la porte à clé derrière lui et l'entend appuyer sur le bouton de l'ascenseur. La machinerie se met en marche. Soudain, elle se souvient d'un jour où elle était restée toute une journée dans le vestibule à fixer la porte en attendant le retour de son père. Elle devait avoir 9 ans et avait compris que sa mère voulait les quitter. Elle n'osait pas croire que son père allait rester. En arrivant dans la cuisine, Simone voit que Kenneth a découpé une tranche de brioche sur le sachet d'emballage. La machine à café est allumée, un dépôt noir au fond de la verseuse. L'odeur de café brûlé se mêle à une sensation de panique à la perspective que les derniers instants de la période heureuse de sa vie appartiennent désormais sans doute au passé. Que sa vie est partagée en 2 actes. Le premier acte, la période heureuse, vient de toucher à sa fin. Elle n'a pas le courage de penser à ce qui l'attend. Simone prend son sac à main et en sort le téléphone. Elle n'est pas surprise de voir qu'il va à téléphoner plusieurs fois de la galerie. Schulman est aussi sur la liste. Simone sélectionne son numéro et appuie sur « Appeler », mais le regrette aussitôt. Elle pose le téléphone et retourne à l'ordinateur dans la chambre de Benjamin. Dehors, c'est une obscurité de décembre. On dirait qu'il y a du vent. Les globes suspendus des réverbères se balancent. Des flocons de neige humide tombent dans la lumière. Simone trouve un message d'Aïda dans la corbeille. « Je te plains de devoir vivre dans une maison de mensonges. » L'email contient une grosse pièce jointe. Simone sent son pouce accélérer dans ses tempes. Tandis qu'elle s'apprête à sélectionner un logiciel de photo pour ouvrir le fichier, on tape prudemment à la porte. C'est presque un grattement. Elle retient son souffle, entend un autre coup et se lève. Elle traverse le long couloir menant jusqu'au vestibule et à la porte d'entrée. Ses jambes la soutiennent à peine.